Bonjour. Moi, je veux le nounours. Voilà. Voilà, c'est un échec du nounours. Nous allons étudier un texte dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est un texte qui vient juste après une grande démonstration de l'auteur de l'Épître aux Hébreux sur le repos de Dieu. Et ça tombe bien parce que Pierre vient de nous parler du repos de Dieu. Et ce passage dans l'Épître aux Hébreux a été écrit, enfin cette Épître aux Hébreux entière d'ailleurs a été écrite pour des chrétiens d'origine hébraïque qui étaient persécutés à cause de leur foi. Donc c'est une lettre, la lettre aux Hébreux, une lettre d'encouragement pour des chrétiens qui étaient tentés de retourner dans le judaïsme. Parce qu'ils disaient que finalement ils avaient confessé Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, mais que finalement ça leur avait pas apporté autre chose que des problèmes, et que donc il valait peut-être mieux retourner dans le judaïsme. Le passage que nous allons lire ce matin, comme le reste de la lettre, a été fait pour être encourageant, et vous allez voir qu'il a un rapport avec Noël en plus, donc ça tombe bien. L'ordinateur ne veut pas se connecter. Deux secondes. Voilà, désolé. Être chrétien, c'est pas toujours facile. Les Hébreux en savaient quelque chose. Écoutez ce que l'auteur donc leur dit pour leur donner du baume au cœur. Hébreux, donc, au chapitre 4, à partir du verset 14, pour ceux qui ont une Bible. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Et peut-être qu'il va me falloir quelqu'un pour faire défiler les diapos. On va voir. Non, c'est bon. Peut-être. Non. Merci la technique. C'est merveilleux. Oui. Non. Si. Allez. Ça vous apporte quelque chose? Oui. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré « Tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » Et dans un autre passage, tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisédek. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Jusqu'ici, notre lecture de la parole. Peut-être que ce passage vous paraît un petit peu obscur, un petit peu technique, parce que, je le sais, vous n'êtes pas forcément d'origine juive. Vous n'avez pas connu le temple de Jérusalem, normalement, si vous n'êtes pas des Highlanders, si vous n'êtes pas immortel depuis 2000 ans. Donc, il va falloir faire un petit rappel de ce qu'est un grand prêtre et de ce que faisait le grand prêtre pour le peuple d'Israël. Parce que pour bien comprendre, voilà, il faut faire un petit peu d'histoire et un petit peu de loi de Moïse, mais vous inquiétez pas, ça va être simple. Donc vous avez ici le tabernacle, donc la tente de la rencontre que Moïse a fait construire sous les ordres de l'Éternel. Et donc voilà, vous avez donc dans cet enclos, vous avez l'autel en blanc devant, là, l'autel où on faisait les sacrifices. Vous avez un bassin de purification au milieu, et puis vous avez le tabernacle en lui-même, et au fond, et vous voyez, le tabernacle est en deux parties. Une première partie un petit peu plus sombre qui est le lieu saint, et une partie au fond qui est le lieu très saint. Dans la première partie, le lieu saint, il y avait plusieurs choses. Un chandelier à sept branches, c'est un peu sombre. Une table avec des pains en offrande à Dieu. Un pain par tribu, donc il y avait 12 pains qui étaient changés toutes les semaines pour les offrir à Dieu. Et puis un autel des parfums où on faisait brûler de l'encens pour que ce soit une odeur agréable à Dieu. C'était l'expression du culte, de la révérence d'Israël envers Dieu. Dans ce lieu saint, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient rentrer, donc les descendants d'Aaron qui pouvaient entrer dans ce lieu, ceux qui eux-mêmes aussi répandaient le sang sur l'autel, donc ça c'était leur métier, et ils avaient une certaine contrainte pour accomplir cet office. Ils étaient obligés d'être un peu plus purs que les autres. Ils avaient des contraintes donc de pureté, ils ne pouvaient pas toucher des cadavres par exemple, et il fallait qu'ils soient pleinement consacrés à Dieu pour rentrer dans ce lieu saint, parce que ce lieu saint était proche de la présence de Dieu. Et la pleine présence de Dieu, enfin pleine avec des guillemets, était plus manifeste dans le lieu très saint, dans la deuxième partie de ce tabernacle, le lieu très saint dans lequel il y avait l'arche de l'Alliance, qui était là pour personnifier, on va dire, la présence de Dieu, qui était même symboliquement le trône de Dieu. Le trône de Dieu, les ailes des anges qui couvraient l'arche, des anges, des chérubins en tout cas, qui couvraient l'arche, étaient le trône de Dieu sur la terre. Et entre les ailes des chérubins, il y avait la nuée qui était là pour symboliser la présence de Dieu. Et bien sûr, comme Dieu est trois fois saint, comme Dieu est parfait, et comme les hommes ne le sont pas, personne ne peut avoir de contact avec lui sans mourir. Il y a une seule fois dans l'année où on pouvait avoir un contact avec lui. C'était le 10 octobre, le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, le jour des expiations. Ce jour des expiations, le grand prêtre, donc le chef des prêtres, la personne la plus sacrée, la plus consacrée, la plus importante du judaïsme, pouvaient entrer dans ce lieu très saint pour offrir du sang, une offrande à Dieu, pour obtenir le pardon au nom du peuple. Au nom du peuple. Donc là, vous avez le grand prêtre. Hein. Donc je ne veux pas vous décrire les habits parce que ce serait un peu long, mais vous avez les ailes des chérubins. Et donc, il avait le droit de venir devant Dieu une seule fois par an et en ayant, comme il est dit dans le texte, accompli un sacrifice pour être pardonné de son propre péché, avec un sacrifice pour le péché du peuple. Et là, il pouvait se présenter devant Dieu. Pour se présenter devant Dieu, le grand prêtre avait les exigences maximales de pureté. Par exemple, le grand prêtre, s'il y avait un de ses parents qui mourait, il n'avait pas le droit de toucher son cadavre. Parce que sinon, il devenait impur, il devenait impropre à la fonction de grand prêtre. Le grand prêtre devait vraiment être le plus parfait possible pour pouvoir approcher Dieu. Et donc voilà le système religieux dans le judaïsme, c'est qu'il faut être vraiment totalement saint pour approcher Dieu. Et une fois par an, le grand prêtre qui représente le peuple, au nom du peuple, peut approcher Dieu pour demander pardon au nom du peuple. Le grand prêtre est un médiateur et le représentant du peuple auprès de Dieu pour le pardon, mais il est aussi le représentant de Dieu auprès du peuple pour encourager le peuple à obéir à la loi de Moïse. Donc voilà, c'est un système de médiation avec le grand prêtre. Et vous remarquerez qu'aussi le grand prêtre, par sa médiation, est un agent du salut, ou un gardien de la paix, mais plutôt un agent du salut, pour faire en sorte que Dieu pardonne le peuple et que Dieu obéisse, et que le peuple obéisse à Dieu. Donc voilà, c'est là tout l'argumentation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il compare Jésus au grand prêtre. Et maintenant, il faut qu'on voit ce qui change avec Jésus, puisque l'auteur affirme que maintenant le grand prêtre, c'est fini, il n'y en a plus, même si à l'époque de cette lettre, il y avait encore le temple et il y avait encore un grand prêtre, mais l'auteur affirme que maintenant, il y a un autre grand prêtre qui a remplacé le grand prêtre, et ce grand prêtre, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce qui change avec Jésus ? La première chose qui change, c'est que nous avons un grand prêtre, un médiateur, un représentant qui a deux natures. C'est une des spécificités du christianisme, c'est un des mystères aussi du christianisme, c'est que Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Il n'est pas 50% homme, 50% Dieu. C'est pas Hercule, c'est pas un demi-dieu. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est ce que nous fêtons à Noël. Hein. C'est un miracle que Dieu s'incarne, que Dieu se fasse complètement homme. Jésus peut être un médiateur parfait parce que qui peut mieux comprendre les hommes qu'un homme ? Personne. Il n'y a qu'un homme qui peut comprendre les hommes, et ça tombe bien, Jésus est pleinement homme. Et qui peut mieux comprendre Dieu que Dieu ? Personne. Jésus est pleinement Dieu. C'est lui qui peut réellement faire la médiation entre Dieu et nous. Qui peut pleinement comprendre les vicissitudes des hommes, et qui peut aussi pleinement comprendre la sainteté, la volonté de perfection de Dieu. Jésus cumule ces deux natures, et c'est pour cela qu'il est un médiateur absolument parfait. La deuxième chose qui caractérise le grand prêtre Jésus, c'est qu'il a obéi parfaitement à son Père. Il a obéi parfaitement à Dieu. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais il ne manquait rien à la perfection divine. Dieu, le Fils, quand il était dans le sein du Père, qui n'était pas encore incarné, était parfait. Or, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a appris l'obéissance. Il a eu une croissance à opérer. Et c'est vrai que c'est bizarre, hein, quand on passe de Dieu le Fils et qu'on s'incarne et qu'on est d'un seul coup un petit bébé qui doit grandir, qui doit apprendre des choses, on s'aperçoit que Jésus a dû avoir un défi qu'il n'avait jamais eu avant, vu qu'il est, il est parfait depuis toute éternité, en tant que Dieu le Fils, mais en tant qu'homme, il a dû progresser et il a dû apprendre l'obéissance, la soumission à son Père. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas gagné d'avance. Il a fallu qu'il le fasse comme nous. Sauf que lui a pleinement réussi. Et le défi, hein, et l'enjeu de son obéissance, c'est que puisqu'il était envoyé sur terre pour devenir le sauveur du monde, rien que ça, eh bien, il devait vraiment réussir pour que son sacrifice devienne efficace. Et donc Jésus a vraiment pleinement obéi à son Père, c'était vraiment quelque chose de très important. Jésus n'était pas de la lignée d'Aaron, la lignée d'Aaron, vous savez, les prêtres devaient tous être de cette lignée-là, les grands prêtres en tout cas. Jésus ne venait pas du tout de cette lignée-là, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu choisit le grand prêtre, et comme il a choisi Aaron pour être grand prêtre, eh bien, il a choisi aussi Jésus pour être grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui est Melchisédek, mais Melchisédek, c'est un roi qui est aussi prêtre, roi et prêtre, ce qui était exceptionnel parce que dans le judaïsme, on n'avait pas le droit de cumuler les deux fonctions. Mais là, Melchisédek arrive à l'époque d'Abraham et bénit Abraham. Il sort de nulle part et il repart vers nulle part, mais il vient juste là pour bénir Abraham et on nous dit qu'il est roi de Salem. Il est roi de Jérusalem, si vous voulez. Et ce roi, qui est aussi prêtre, intervient dans l'histoire d'Abraham. Et là, donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en citant le psaume 110, nous dit que Jésus devient grand prêtre, mais pas de la lignée normale d'Aaron, de la lignée de Melchisédek. Jésus obéit pleinement encore à son Père, qu'il a nommé dans la ligne de Melchisédek, et il endosse le rôle. Jésus a été rendu parfait par ses souffrances. Il a accepté de remplir son mandat, de souffrir pour son peuple, de s'offrir en sacrifice. Et donc, il a été pleinement qualifié pour être le sauveur du monde, le grand prêtre de ceux qui lui appartiennent. Et cette obéissance dans les évangiles, on la comprend quand Jésus fait cette prière dans le jardin de Gethsémané, quand il aimerait que cette coupe, la coupe de douleur, le sacrifice qui va arriver, il aimerait éviter ce sacrifice. Il aimerait surtout pas forcément éviter la mort, mais éviter la malédiction de son Père. Pour lui, le Fils de Dieu, il n'a jamais vécu la malédiction. Il n'a jamais été en contact avec le péché. Il n'a jamais ressenti le péché de l'intérieur. Et il aimerait éviter de le connaître. Et c'est là où on voit qu'il y a une lutte, on voit qu'il y a une tentation de la désobéissance finalement. Mais on s'aperçoit aussi qu'à Gethsémané, il dit à son Père, c'est ta volonté qui doit primer, c'est pas la mienne, que ta volonté soit faite. Et c'est là où on voit l'obéissance absolument merveilleuse de Jésus. À Gethsémané, tout aurait pu être gâché. Jésus aurait pu jeter ses habits de grand prêtre, s'en aurait été fini pour nous. Mais Jésus a pleinement obéi à son Père. Je reviens sur la carrière de Jésus sur terre. On peut se dire aussi que dans sa progression, Jésus a appris petit à petit, l'obéissance. Ça a dû commencer quand Marie lui a dit « Jésus, viens mettre la table ». Et Jésus a obéi à Marie qui lui disait de mettre la table. Et puis petit à petit, hein, les exigences ont été plus grandes. Petit à petit, Jésus a grandi en sagesse. jusqu'à obéir à son Père qui lui demandait de mourir sur la croix. Jésus a connu un long chemin d'apprentissage pour parvenir à obéir dans des conditions de plus en plus difficiles, qui demandaient une abnégation de plus en plus grande jusqu'à atteindre la perfection. La perfection, c'est-à-dire ne plus rien avoir à apprendre. Mais Jésus a aussi transcendé la fonction de grand prêtre. Ce n'est pas juste un grand prêtre qui vient se superposer à l'ancien grand prêtre ou qui vient le remplacer. Il a aussi transcendé cette fonction de grand prêtre. Et c'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans les premiers versets quand il nous dit que Jésus a traversé les cieux. Comme le grand prêtre traversait le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, Jésus aussi a traversé un rideau, mais le rideau, c'est les cieux. C'est là où on voit qu'il y a une vraie transcendance, parce que vous voyez, quand on était au jour des expiations, vous aviez le grand prêtre, il y avait toute l'assemblée qui était rassemblée autour du temple, autour du tabernacle, vous aviez le grand prêtre qui avait fait sacrifice, qui venait avec le sang des animaux, et qui rentrait dans le temple. Et là, tout le peuple attendait que le grand prêtre revienne et dise « C'est bon, Dieu nous a pardonné. » Alors s'il rentrait pas, s'il ne ressortait pas, c'était problématique, vous voyez. Parce qu'en plus, il fallait aller le chercher. Alors s'il faut aller le chercher dans le lieu très saint, c'est un peu problématique. Mais là, vous avez Jésus qui est le grand prêtre, qui a apporté son offrande. D'ailleurs, l'offrande, c'est lui aussi. Et il n'est jamais revenu. Il n'est pas revenu. Le jour de l'ascension, il est monté à la droite du Père et il est resté à la droite du Père. Parce que justement, il était parfait, il n'a pas eu à repartir. Il a pu rester auprès de son Père, mais avec son corps ressuscité. Jésus est encore pleinement homme et pleinement Dieu actuellement à la droite du Père. Jésus est resté dans le sanctuaire. Il est resté dans la présence de Dieu et il peut ainsi être notre digne représentant, notre correspondant permanent auprès du Père, notre avocat. Il est la garantie que Dieu nous pardonne quand nous lui demandons pardon au nom de Jésus. Il est la garantie que Dieu nous écoute, que Dieu nous aime comme un père. C'est ça que Jésus a fait grâce à son incarnation et à son sacrifice. Le grand prêtre est dans les cieux. Alors, quelle est la conséquence pour nous de cette réalité de Jésus grand prêtre parfait qui est auprès du Père. La première conséquence, c'est que quand vous priez, c'est un homme qui vous écoute. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé quand vous priez. Quand vous priez notre Père, mais celui qui vous écoute, c'est aussi votre frère. Dieu le Fils, mais aussi Jésus, votre frère. Jésus qui partage votre humanité. C'est lui qui vous écoute quand vous priez. Et une deuxième conséquence qui vient juste après, c'est que nous avons quelqu'un qui nous écoute et qui nous comprend. J'imagine... Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui n'allait pas bien, ou qui pleurait, et puis vous avez voulu savoir ce qui n'allait pas. Vous lui avez demandé, et la personne vous a répondu, mais tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Parce que j'ai vécu quelque chose de tellement exceptionnel, tellement spécifique, que tu peux pas comprendre. Alors tu vas avoir une oreille attentive, tu vas faire oui, oui, tout ça. Mais en fait, quand on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça ou si vous avez déjà entendu ça. Quand on n'est pas passé par là, on ne peut rien dire d'intelligent finalement. Et peut-être que parfois, on peut être tenté de dire ça à Dieu. De lui dire, oui, t'es gentil, toi t'es trois fois saint, t'as jamais connu notre monde, tu l'as créé, d'accord, mais le monde avec le péché, bah tu sais pas ce que c'est, toi, avec tes exigences. Oui, bah moi, d'accord, j'ai péché, mais quand même, j'ai des circonstances atténuantes quand même. On pourrait peut-être être des fois tenté de se dire ça. De dire, oui, pardon Seigneur, mais quand même, vivre ici, c'est pas facile. Bah, justement, Jésus, lui, peut comprendre. Jésus peut comprendre les circonstances par lesquelles nous passons. Il peut comprendre nos souffrances, il peut comprendre nos tentations, parce qu'il les a subies. Il a subi exactement les mêmes épreuves que nous, et même une épreuve d'une intensité largement plus grande que la plus grande épreuve que nous pourrions subir. Il a partagé pleinement notre nature, il partage toujours pleinement notre nature. Sauf que lui, il a réussi le test sans péché. Il a réussi à dire non aux tentations et il a réussi à dire oui aux épreuves, en tout cas à dire oui à son Père lors de l'épreuve. C'est pourquoi il peut être aujourd'hui plein de sympathie pour ceux qui souffrent dans l'épreuve. Et c'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. À l'époque, le grand prêtre pouvait comprendre le peuple, mais lui aussi était pécheur, donc c'était plus facile. Mais Jésus, à bien plus forte raison, peut nous comprendre dans cette épreuve. Mais non seulement il peut nous comprendre, mais il peut être aussi une vraie aide pour nous, parce qu'il peut nous donner des conseils pour surmonter l'épreuve, pour réussir le test. Si vous demandez des conseils à quelqu'un qui a échoué, bon, il va peut-être vous dire déjà pourquoi il a échoué, donc ça va vous être quand même utile. Et puis il va pouvoir vous comprendre, puisque si vous avez échoué, il a échoué, donc c'est super, on peut se faire un groupe de parole de ceux qui ont échoué. Mais, avec Jésus, ce qui est pas mal, c'est que puisqu'il a réussi le test, eh bien, il peut nous donner des conseils sur la manière de réussir le test. Comment être un homme selon le cœur de Dieu, pleinement selon le cœur de Dieu, comme Jésus. Et je pense que le Notre Père, la prière que le Seigneur Jésus nous a apprise, la prière dont il est l'auteur, peut être une grande aide pour ressembler à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le Notre Père est une prière que Jésus a parfaitement accomplie. Mis à part, juste une partie, pardonne-nous nos offenses. Jésus n'a jamais eu à prier le pardonne-nous nos offenses, mais tout le reste, Jésus pouvait le prier à son Père, et il l'a parfaitement fait, parce que le Notre Père, et la prière en général, est un acte de soumission à la volonté de Dieu. Au lieu de « pardonne-nous nos offenses », Jésus a juste remplacé « pardonne-nous nos offenses » par « pardonne-leur », parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Prier, ce n'est pas changer le programme de Dieu à grands coups de harcèlement, mais c'est amener notre volonté à être en harmonie avec la sienne. Prier, c'est vraiment une espèce de musculation spirituelle pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu pour nous et pour que nous nous mettions au diapason de cette volonté. Si vous priez en pensant avant tout aux intérêts de Dieu, en étant pleinement consacré à lui, vous serez à coup sûr exaucé. C'est l'obéissance parfaite qui permet de sortir victorieux de n'importe quelle épreuve. L'exemple de Jésus nous l'a montré. Et c'est pourquoi, quand vous priez le Notre Père ou quand vous pensez au Notre Père, pensez à Jésus, qui l'a pleinement incarné, ce Notre Père. Et donc je pense que ce passage qui nous invite à mettre notre confiance dans ce grand prêtre Jésus, qui nous invite à imiter ce grand prêtre Jésus qui a pleinement obéi à son Père, est un appel à l'obéissance, est un appel à la soumission à la volonté de Dieu. Et là, je vous rappelle le contexte de l'Épître. Hein. L'auteur s'adresse à des Hébreux qui sont dans la persécution, qui sont tentés de tout abandonner à cause de la persécution. Et là, il leur dit, regardez Jésus qui a eu à subir la plus grande persécution et qui s'est toujours soumis à son Père. Imitez le grand prêtre, imitez celui qui vous ressemble, imitez le médiateur. Obéissez à votre Père. Les Hébreux, comme nous, étaient tentés de dire « c'est trop dur ». Ton fardeau est complètement irréaliste. C'est pas possible de vivre une vie de sainteté. C'est pas possible. C'est pas possible de consacrer autant de temps au royaume de Dieu. C'est pas possible de faire le sacrifice de tant de plaisirs pour la gloire de Dieu. Et c'est pas possible de souffrir le mépris pour Jésus. C'est pas possible. Sauf que ce passage nous dit que les épreuves que Dieu met sur notre route ne sont jamais irréalistes. Elles sont certes dures, mais pas irréalistes. Et si nous voyons que Dieu met sur notre route des épreuves de plus en plus dures, c'est parce qu'il veut que nous progressions de plus en plus. Il veut que nous fassions comme Jésus finalement, que nous le suivions, que petit à petit nous apprenions l'obéissance jusqu'à approcher la perfection, jusqu'à devenir vraiment des sages, des sages. Et ce n'est pas une question d'âge d'être sage, c'est une question d'obéissance. Donc vraiment, approchons la perfection. Mettons-nous ça comme défi, hein, de vraiment d'obéir de plus en plus à la volonté de notre Père et d'arrêter finalement de vouloir prendre le contrôle de notre vie. En conclusion, toujours en rapport avec l'incarnation et la double nature de Jésus, ce grand prêtre qui a disparu dans les nuées, qui est à la droite de Dieu, un jour va revenir. Il va revenir avec son corps ressuscité. Et j'aimerais vraiment appuyer là-dessus pour conclure. Un jour, nous serons jugés par un homme parfait. Nous serons jugés par un juge qui a parfaitement réussi le test. Et nous ne pourrons pas lui dire « tu ne peux pas comprendre ». Il nous dira « si, je peux comprendre et j'ai réussi ». Et il pourra être à la fois plein de compassion pour nos faiblesses et en même temps plein de justice parce qu'il est aussi Dieu. Il pourra nous dire, bah voilà, super, tu as mis ta foi en moi, donc ça c'est merveilleux, hein, donc tu es pleinement sauvé, mais n'empêche qu'on aura quand même droit à un petit résumé de notre vie. Et il pourra quand même avoir un regard plein de compassion, mais aussi peut-être avec un petit peu de reproche en disant, bah voilà, là tu vois, là t'as fait un petit peu n'importe quoi. Mais c'est vraiment un homme qui nous dira ça. C'est Jésus, l'homme parfait. Alors, pensons à ce jour et progressons dans l'obéissance. Amen.